VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 10 octobre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Timothée Donangmaï. Deuxième des trois débats prévus pendant cette campagne entre les candidats démocrates et républicains à la présidentielle de novembre, Hillary Clinton et Donald Trump. Un débat qui certainement était très suivi compte tenu des derniers rebondissements de cette campagne. Vous savez de quoi je parle, Timothée, la vidéo sur les propos dégradants de M. Trump sur les femmes.
Et oui, Idrissa, d'entrée de jeu, le candidat républicain a eu à s'expliquer sur cette affaire.
This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people.
C'était des propos de vestiaire. Je n'en suis pas fier. Je m'en suis excusé auprès de ma famille et auprès du peuple américain, a déclaré le candidat républicain. Donald Trump dit que la vidéo de vendredi ne représente pas qui il est, mais c'est pourtant le cas, a réagi la candidate démocrate.
We have seen him insult women. We've seen him rate women on their appearance.
Nous l'avons vu insulter les femmes, les classer selon leur apparence, les noter de 1 à 10 points. Nous l'avons vu embarrasser les femmes à la télé et sur Twitter, a déclaré Hillary Clinton. À la question de savoir s'il est maintenant différent de l'homme de 59 ans, apparaissant dans la vidéo controversée, Donald Trump s'en est pris à l'époux de Mme Clinton.
If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in.
Et si vous voyez Bill Clinton, c'était pire. C'était des mots pour moi, et pour lui, il est passé à l'action. Ses mots et ce qu'il a fait aux femmes, personne en politique dans ce pays n'a autant maltraité des femmes, a martelé Donald Trump, affirmant que 4 femmes victimes des abus sexuels de l'ancien président Clinton étaient présentes dans l'assistance. Chacun peut mener sa campagne comme il entend, a dit Mme Clinton, qui a répondu pour sa part à une série de questions concernant l'utilisation d'un serveur privé pour ses emails au département d'État.
That was a mistake. And I take responsibility for using a personal email account. Obviously, if I were to do it over again, I would not.
C'était une erreur et j'assume la responsabilité d'avoir utilisé un compte email personnel. Et bien évidemment, si c'était à refaire, je ne le ferais pas, a expliqué Mme Clinton, assurant qu'aucune information classée top secret n'a été compromise. Une réponse ayant entraîné une vive réaction de son adversaire républicain.
You know, it's amazing. I'm watching Hillary go over facts, and she's going after fact after fact, and she's lying again.
C'est étonnant de voir Hillary aller d'un fait à un autre et mentir encore quand elle dit qu'elle a correctement traité ses emails, a déclaré Donald Trump, qui a promis que s'il était élu, son ministre de la Justice désignerait un procureur spécial pour enquêter au sujet des milliers d'emails de l'ancienne secrétaire d'État. La réforme de l'assurance maladie a fait l'objet d'un vif échange entre les deux candidats. La question des réfugiés a aussi été discutée. À ce sujet, Donald Trump dit avoir modifié sa position initiale, passant d'une interdiction totale de l'entrée des réfugiés musulmans aux États-Unis à des mesures draconiennes d'examen de leur dossier d'admission. Pour Mme Clinton, la position initiale de Trump est utilisée par les groupes extrémistes pour recruter des combattants. Les musulmans doivent faire partie de la solution, a-t-elle ajouté. Et dans l'ensemble, Idrissa, les échanges ont été moins heurtés cette fois-ci que lors du premier débat. Et les deux candidats ont même trouvé quelque chose de positif à dire l'un de l'autre. Mme Clinton a félicité Donald Trump pour la réussite de ses enfants. À son tour, le candidat républicain a reconnu à l'ancien secrétaire d'État une grande détermination dans ce qu'elle entreprend.
Merci Timothée. Nous reviendrons sur ce débat avec des réactions dans la seconde partie de cette édition. « Maintenant, le reste de l'actualité. On commence par le Mali. Le bras droit du djihadiste Iyad Aghali, numéro 2 du HCUA, Cheikh Ag Aoussa, a perdu la vie dans une explosion. Les premières informations indiquaient que son véhicule avait heurté un engin explosif, mais ses partisans de la CMA rejettent cette raison et exigent l'ouverture d'une enquête afin de clarifier les circonstances de son décès. Kassim Traoré.
Depuis l'attaque contre le camp des réfugiés maliens basé au Niger, qui a occasionné la mort de 22 soldats nigériens, les rebelles de la CMA au Mali ne sont plus tranquilles. Une dizaine d'entre eux ont trouvé la mort dans la zone de Tenzawaten, alors que leur chef, Cheikh Aoussa, périssait dans une explosion de véhicule à la sortie du camp de l'AMINUSMA. Dans un premier temps, il avait été dit que son véhicule a sauté sur un engin explosif. Cheikh Aoussa était avec son fils et son chauffeur. Les hypothèses selon lesquelles sa voiture aurait sauté sur un engin explosif pour la CMA, le numéro 2 du ACIA et l'ancien bras droit de Iyad Aghali seraient victimes d'un assassinat ciblé. Les rebelles de Kidal demandent une enquête indépendante pour faire la lumière sur son assassinat. L'AMINUSMA, dans un communiqué, tout comme le gouvernement malien, ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Il faut signaler que la mort de Cheikh Aoussa est un coup dur pour les combattants de la CMA qui sont très réduits aujourd'hui au niveau de la ville de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, la police secrète a lancé un vaste coup de filet dans les milieux de la justice dans le cadre d'une opération anticorruption. Des centaines de milliers de dollars ont été saisis pendant les perquisitions au domicile des juges. Jean-Roger Pion.
7 juges ont été arrêtés et l'enquête porte sur 15 magistrats soupçonnés d'avoir touché des pots de vin. Les autorités fédérales affirment avoir saisi 800 000 dollars lors de descentes au domicile de ces juges soupçonnés de corruption. Le département des services d'État, ou DSS, affirme que les fouilles ont permis de découvrir une fortune en liquide, des devises multiples, des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de naira et des documents compromettants. Mais Aboubakar Mahmoud du barreau nigérian dénonce ces raids qui, selon lui, rappellent le style de la Gestapo. Adetokumbo Mumuni, qui dirige une organisation de défense des droits de l'homme, a appelé les autorités à relâcher immédiatement et sans condition ses juges. Mouhamadou Bouhari, élu en 2015, a lancé une vaste campagne contre la corruption qui gangrène ce pays pétrolier. Des critiques l'ont accusé d'utiliser cette campagne pour museler les opposants politiques.
Le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence pour une période de 6 mois après plusieurs mois de violents troubles dans le pays. Le point avec Idriss Fall.
Pour le premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn, l'état d'urgence est nécessaire parce que la stabilité du pays est compromise. Cette mesure, en vigueur sur l'ensemble du territoire, est une première depuis 25 ans. La police est devenue plus visible, le réseau Internet mobile est coupé et les réseaux sociaux sont bloqués à Addis Abeba. Il y a une semaine, pendant un festival religieux au Romo, la police a usé de gaz lacrymogène, provoquant une bousculade qui a fait officiellement 55 morts. Depuis, les violentes manifestations se sont multipliées, des complexes touristiques, usines et fermes étrangères ont été incendiés, une ressortissante américaine a été tuée près de la capitale. Cette contestation sans précédent depuis la chute de Mengistu en 1991 est menée par les communautés Oromo et Amhara. Elles sont majoritaires dans le pays et se disent marginalisées par un gouvernement dominé par les Tigréens, originaires de la région nord du pays.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, formation historique de l'opposition en République démocratique du Congo, a annoncé dimanche soir l'arrestation d'un de ses dirigeants à Kinshasa, Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement, a été interpellé à l'aéroport international de Ndjili alors qu'il était en partance pour Bruxelles d'après son parti.
En Syrie, affrontement violent à Alep entre le régime de Damas et les rebelles après l'échec d'une nouvelle tentative diplomatique pour apaiser les souffrances de la population. Pour rappel, Moscou a bloqué à l'ONU un texte français sur l'arrêt des bombardements.
L'Arabie saoudite était de nouveau sur la sellette après un carnage qui a fait 140 morts et 525 blessés dans la capitale yéménite Sanaa. Une attaque qui a été dénoncée par Washington, Paris, Londres, Téhéran, Damas et les Nations Unies. Selon l'ONU qui a donné ce bilan, des frappes aériennes ont touché une grande cérémonie funéraire samedi dans la ville contrôlée par les rebelles chiites Houthis. Parmi les victimes figurent des personnalités politiques, des responsables militaires et de nombreux civils.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Une compagnie chinoise qui exploite un gisement aurifère à l'ouest d'Antananarivo a annoncé la suspension de ses activités suite à plusieurs manifestations hostiles de la population. Celle-ci proteste depuis juin pour exiger le départ des investisseurs chinois accusés de spolier leurs terres. Mais pour la société chinoise incriminée, il n'est pas question de cesser définitivement les activités vu les investissements qui ont déjà été faits. D'après une responsable, la société veut se retirer juste le temps que le calme et la sécurité reviennent dans la ville pour reprendre l'exploitation. Le prix du cacao a grimpé la semaine dernière avec les craintes provoquées par la météo en Afrique de l'Ouest, tandis que celui du café et du sucre se stabilisait en l'absence d'informations fortes. La hausse du prix du cacao s'explique par la perspective de récolte meilleure. La baisse du prix du café s'explique par la force du dollar, monnaie dans laquelle sont libellées les transactions de cette matière première. Les cours du sucre blanc ont alterné, baisse et hausse, sans s'écarter des prix atteints la semaine dernière, tandis que le sucre brut poussait légèrement ses gains à New York pour atteindre 23,90 cents la livre à son plus haut niveau depuis 4 ans.
Notre page sport maintenant avec Élisée Onkpatine. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
Cette page sport sera consacrée uniquement aux éliminatoires du Mondial 2018. L'Algérie et le Cameroun se sont neutralisés dans le groupe B.
Oui, un but partout à l'arrivée entre les deux formations. Ouverture du score de Soudani, réplique de Moukandjo, le tout en première période. Résultat au classement de ce groupe, le Nigeria est en tête avec 3 points suite à sa victoire à Ndola 2-1 devant la Zambie. Suivi ensuite du Cameroun et de l'Algérie, la Zambie ferme la marche avec 0 points.
C'est bien parti pour la République démocratique du Congo dans le groupe A.
Lâche victoire des Léopards qui ont dominé la Libye 4-0 avec un doublé de Dieu merci Mbokani. La RD Congo prend la tête de ce groupe A, égalité de points avec la Tunisie, vainqueur de la Guinée 2-0. Florent Ibengué, le sélectionneur des Léopards, satisfait de la prestation de ses joueurs, au micro de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre radio partenaire.
J'ai vraiment apprécié son match par rapport à sa rentrée au Kenya. Il a été responsable, il a défendu et même s'il a perdu les ballons devant, le travail qu'il a fait avec ses accélérations, je peux vous assurer que ça fatigue les adversaires. Donc moi je trouve qu'il a fait un très grand match et je suis content et j'espère qu'il aura pris conscience que tous les matchs il doit les jouer comme ça. Et s'il a eu Il a un petit peu de réussite parce qu'il a dribblé, il a frappé au but. Et évidemment, à la fin, il était un peu fatigué. Mais on avait déjà fait les trois changements et on ne pouvait plus changer non plus. Là aussi, c'est le public qui veut toujours des changements. Et on n'en a que trois dans un match. On a tenté le coup de poker, mais on a travaillé en 4-4-2. On a travaillé avec deux pointes. Donc toute la semaine, on s'est préparé comme ça. Ça a marché, tant mieux. L'état de santé de Bota, quand on verra plus à l'hôtel. Mais c'est vrai qu'on a raté beaucoup. On a raté beaucoup en fin de match. Hein, on a manqué un peu de lucidité, mais les occasions arrivaient. On a tiré, le gardien a arrêté. On en a raté beaucoup. On en a marqué un que l'arbitre a annulé. Mais bon, je souhaite, mais vraiment, je souhaite ardemment rater autant quand je mène 4-0.
A noter que suite à cette défaite, le sélectionneur libyen Javier Clemente a été limogé. Le technicien espagnol vainqueur du Chan de 2014 avec la Libye perd fort l'entrée catastrophique des Chevaliers de la Méditerranée dans la phase de groupe de ces éliminatoires.
Dans le groupe C, c'est la Côte d'Ivoire qui, pour vous citer, a pris le pouvoir.
C'était pourtant mal parti pour les éléphants, menés 1-0 par le Mali sur un but de Sambou Yatabaré. Les Ivoiriens ont ensuite renversé la tendance en s'imposant sur la marque de 3-1. Ils prennent du coup la tête de leur groupe, puisque le Gabon et le Maroc se sont séparés sur un match nul 0-0 à Franceville.
Élisée, dans le groupe D, le Sénégal s'en sort bien.
Effectivement, Idrissa, succès tranquille face au Cap Vert 2-0. Les Lions de la Teranga sont leaders de ce groupe D après le nul un partout entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud. Et puis comme le Sénégal, l'Égypte aussi est seule en tête de son groupe en s'imposant 2-1 à Brazzaville face au Congo. Les Pharaons s'emparent des commandes du groupe E devant le Ghana et l'Ouganda qui se sont neutralisés 0-0 à Accra.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia et Timothée Dorangmaï, nous passons maintenant à nos dossiers du jour.
Et comme promis, quelques réactions au débat télévisé d'hier soir entre Hillary Clinton et Donald Trump, les candidats démocrates et républicains à la présidentielle de novembre. Écoutons Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Donald Trump a montré qu'il était bien préparé pour le débat. Il était très fort. Il a donné beaucoup de bons coups contre Mme Clinton. Et je crois qu'elle était moins forte que la dernière fois. Elle était plutôt faible. Donc, en général, on peut dire que M. Trump a gagné.
Beaucoup de gens attendaient d'entendre les explications de Trump concernant cette vidéo controversée, concernant son attitude vis-à-vis des femmes. Comment s'en est-il tiré?
Je crois qu'il n'a pas bien répondu à ça. Il a dit « je m'excuse ». Ça, c'était son explication. J'ai été jeune, plus jeune. C'est comme les garçons parlent entre eux souvent. Il n'a vraiment pas montré qu'il était vraiment désolé. Il n'a pas montré ça parce qu'il n'a pas dit des choses vulgaires contre les femmes, mais il a dit des choses qu'il pensait que des femmes sont inférieures et qu'ils sont seulement là pour la sexualité, c'est tout. Donc je crois qu'il n'a pas maîtrisé cette question, pas du tout. Et je crois que beaucoup de femmes qui ont décidé de voter contre lui à cause de ça, il n'a pas gagné dedans.
Madame Clinton a, elle aussi, dû répondre à des questions concernant la destruction des milliers de ses emails datant du temps où elle était au département d'État. Comment s'en est-elle tirée?
Je crois qu'elle est toujours vulnérable parce que, bien sûr, elle a avoué qu'elle a fait une grande erreur, mais quand même, ça montre que c'est une femme secrète et qui n'aime pas dire des choses en public. Donc elle est vulnérable et je crois que malgré le fait que le département de justice et le procureur général, tous les deux ont dit qu'il n'y a rien contre elle selon la loi, je crois qu'elle est toujours vulnérable là-dessus.
Les deux candidats ont eu du mal à répondre au sujet de leur plan concernant la Syrie.
Oui, je crois que pour la Syrie, tous les deux ne sont pas très au courant de la situation. Monsieur Trump a montré qu'il est vraiment ignorant sur les sujets. Et tout ce qu'il sait, c'est que l'État islamique est là. C'est à cause de Clinton, à cause d'Obama que l'État islamique existe. Donc c'est un grand mensonge. Mais comme il a expliqué, je crois que beaucoup d'Américains vont croire. Et Mme Clinton était plutôt bien là-dessus parce qu'elle a dit « Nous ne voulons pas que les soldats américains vont là-bas pour se faire tuer. Il faut aider les gens qui vont lutter contre la Syrie et contre le gouvernement d'Assad et contre l'État islamique. » Donc sur cette question, je crois que Mme Clinton était le meilleur.
À moins d'un mois de la présidentielle de novembre, qu'est-ce que ce débat, ce deuxième débat change?
Je crois que Trump est assuré maintenant que les gens qui soutiennent Trump vont rester avec lui malgré cette histoire de vulgarité contre les femmes. Il a fait un bon débat et ces gens-là vont rester avec lui. Mais je ne crois pas qu'il a gagné sur des autres fronts. La plupart des femmes vont voter contre lui à cause de son attitude de non-respect des femmes. Donc, je crois qu'il a gagné le débat, mais pas suffisant pour gagner l'élection.
L'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen.
Pour ma part, j'ai joint ici à Washington le consultant René Lake, administrateur du site CNEPLUS.com. L'enjeu du débat, c'était donc, comme l'a dit Tim, l'impact de la vidéo dans laquelle M. Trump utilisait des propos dégradants sur les femmes. D'abord, les impressions générales de notre confrère Lake.
En fait, la réaction à cette vidéo ne s'est même pas passée au moment du débat, elle s'est passée à peu près une heure avant le débat. Une heure avant le débat, la campagne de Donald Trump a présenté une vidéo qui montrait Donald Trump entouré de 4 accusatrices du président Clinton, dont une qui l'accusait de l'avoir violée, d'autres de les avoir agressées sexuellement, etc. Et donc, il y a fait allusion, effectivement, au début du débat, mais je crois que la réponse d'Hillary Clinton était assez intéressante. Elle a paraphrasé Michelle Obama qui avait dit que quand l'adversaire réautorera des pâquerettes, il vaut mieux de son côté s'élever un peu et n'est pas allé très loin dans cet échange-là. Et je crois que c'était sa stratégie.
Outre ce débat sur la vidéo, il y a eu la Syrie, l'économie, le groupe État islamique et puis les emails ou le serveur privé de Hillary Clinton. Et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Monsieur Trump a dit que s'il est élu, eh bien, il nommera un procureur spécial et qu'il va envoyer en prison Hillary Clinton. Comment voyez-vous la suite d'une telle...
Alors, c'était assez étonnant. Je crois que j'ai suivi un peu aussi certains des commentaires, que ce soit du côté républicain comme des démocrates. Et beaucoup de gens ont été très, très surpris par ce type de discours. C'est la première fois, dit-on, dans l'histoire de l'Amérique, candidat menace son adversaire en lui disant « Écoutez, si je gagne, je vous enverrai en prison ». Ce qui était assez intéressant, c'est que les gens se référaient un peu au tiers-monde, hein, en disant que c'est plutôt un discours du tiers-monde. Et certains observateurs et certains analystes n'ont pas pu s'empêcher même de dire « Écoutez, ça c'est en Afrique qu'on entend ce genre de choses, mais c'est la première fois qu'aux États-Unis on entend un adversaire menacer sur son adversaire de l'amener en prison ». Donc je crois que bon, c'était un peu de la rhétorique et des excès auxquels on est habitué de Donald Trump, mais je ne pense pas qu'il faille y voir plus que ça. Mais je pense que cela pourra jouer, je pense que ça sera même utilisé par certains républicains qui, à partir, je pense, de demain, après-demain, vont continuer à quitter le bateau Donald Trump.
Donc vous pensez qu'il n'a pas réussi à arrêter l'hémorragie et que finalement il n'a fait que renforcer ou conforter sa base, mais que pour le reste du Parti républicain et les indépendants, il n'a pas fait grand-chose?
Je pense que des deux côtés du reste, hein, je sais qu'Hillary Clinton a essayé à un moment de dire des choses très positives, notamment sur Bush, de montrer qu'elle a une histoire d'activité bipartisane, qu'elle sait intégrer des points de vue du Parti républicain, des autres, donc elle a un côté inclusif que Donald Trump n'a pas, bien entendu, selon elle. Mais au-delà de ça, je pense que tous les deux ont joué plutôt à mobiliser leur base. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que Donald Trump ait gagné une voix de plus. Au contraire, je crois que en tout cas au niveau du leadership du Parti républicain, qui attendait des excuses renforcées de la part de Donald Trump par rapport à cette question de la vidéo, ils ne l'ont pas obtenue. Et je crois que ça n'arrêtera pas l'hémorragie.
Contacté à Washington, le consultant René Lake, administrateur du site CNEPlus.com.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, à Abidjan, suite cette semaine du débat à l'Assemblée nationale sur la révision de la Constitution ivoirienne, un nouveau texte qui crée un poste de vice-président ainsi qu'un Sénat. Finit aussi la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle. L'opposition ivoirienne a dénoncé ce texte et s'oppose à une telle révision. Nicolas Pineau a rencontré à Abidjan Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo et aujourd'hui président du parti LEADER.
C'est la troisième constitution qu'on propose à la Côte d'Ivoire et c'est la première fois qu'on désigne un groupe d'experts qui se cache dans une villa ou dans un bureau quelque part, qui reçoit des instructions du président de la République, qui transforme ces instructions en constitution et puis qui viennent rendre leur copie au président de la République qui lui-même dit qu'il consulte. Il a consulté les partis politiques, mais ces consultations se sont déroulées sous forme d'informations. Elle sort à l'Assemblée et il donne 48 heures aux députés pour l'étudier, l'adopter. et lui, il publie au journal officiel et on va au référendum. Si c'est pour la paix et la sérénité, pourquoi se dépêcher de faire une constitution maintenant, au pas de course ?
Qu'est-ce qui vous gêne principalement dans ce texte ? Il y a deux points principaux, la création notamment de ce vice-président, la limite d'âge qui saute.
Il y a ces deux points, mais en plus, cette constitution est arrivée parce qu'à Marcoussi et la crise ivoirienne ayant éclaté, Ouattara et ses amis ont expliqué que cette constitution contenait les germes d'un conflit et que ces germes-là s'appelaient ivoirité, nationalité, foncier. Donc, on était en droit de s'attendre à ce que cette constitution corrige ces problèmes-là, ce qui n'est pas le cas. La situation actuelle est liée à l'agenda particulier de Ouattara. Il dit qu'il fait le référendum en fin octobre. La campagne électorale doit durer 2 semaines. Donc, à partir du 15 octobre, la campagne commence. Ouattara veut forcément ce texte maintenant, avant les législatives. Sa force, c'est qu'il va organiser les législatives sous l'autorité de cette constitution, ce qui lui permet de se donner un vice-président, ce qui lui permet de vendre des sièges du Sénat à des amis politiques.
Donc pour vous, il ne fait aucun doute qu'en 2020, il sera...
Quand je vois comment cette constitution est rédigée, il n'y a pas de doute. Et même pour la révision de la constitution, il s'est donné la liberté d'écrire que pour la future révision, il n'a pas besoin de référendum.
Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Renforcer la coopération entre Bamako et Berlin, tel est le but de la visite de travail que la chancelière allemande a entamée hier au Mali. Dès son arrivée à Bamako, Angela Merkel a eu un entretien avec le président malien. Après, ils ont animé une conférence de presse conjointe. Le point, Kassim Traoré.
La chancelière allemande, dès sa descente d'avion, a eu droit aux honneurs militaires. Au bas de la passerelle, elle a échangé les poignées de main avec les ministres maliens et les diplomates qui étaient présents. Angela Merkel a eu un premier entretien avec le président de la République pendant une vingtaine de minutes avant un point de presse conjoint. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Venir au Mali, par les temps qui courent, est un acte de foi. Mais cela ne serait surprendre pour qui connaît la femme de cœur qu'elle est, celle qui associe de l'autre, de l'humain. Elle l'a montré, elle l'a démontré parfaitement dans des enjeux importants au plan mondial. Elle n'a pas eu souci de conséquences de telle décision dès lors que l'humain était interpellé. Cette grande dame que le Mali accueille aujourd'hui, nous ne nous souviendrons guère à ce niveau-là. L'Allemagne est notre partenaire depuis très longtemps. Chacun se souviendra ici, dans ce pays, que l'Allemagne fut le premier pays à reconnaître le Mali indépendant.
Le renforcement de la coopération entre le Mali et l'Allemagne a été le point fort du discours de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel.
Nous contribuons aussi à ce que les Maliens prennent en charge leur propre destin, ECAP au Mali, et d'ailleurs dirigé par un représentant allemand. Sur la demande de la France, nous avons envoyé 650 militaires allemands à la MINUSMA dans le Nord. Bien sûr, la situation sécuritaire est encore mauvaise et nous souhaitons contribuer à ce que cette situation sécuritaire s'améliore. Alors, nous savons parfaitement que les seuls militaires ne créeront pas la paix. Voilà pourquoi nous attachons une très grande importance à la mise en œuvre des accords de paix.
Le chef de l'État malien s'est réjoui des projets que l'Allemagne soutient au Mali, mais particulièrement dans 3 domaines qu'Ibrahim Boubacar Keïta précise.
Une décision superbe du ministère allemand qui a autorisé l'envoi au Mali de 650 militaires. Pour la première fois dans l'histoire militaire allemande, cela, madame, a été apprécié au Mali. Ils sont ici au Mali à l'aménagement, ils font du bon travail. Nous avons également, madame Merkel, eu le bénéfice de votre accompagnement. Nous avons également, dans nos domaines de priorité, convenu avec vous, madame, la gouvernance démocratique, la question de la décentralisation, la question de l'agriculture, sa promotion. Et vous avez également, madame, eu souci d'accompagner le Mali dans un autre domaine, l'eau et l'assainissement. Enjeu important, vital. pour notre pays.
Au cours de la conférence de presse conjointe, plusieurs sujets ont été abordés. La chancelière allemande soutient que la coopération au développement sera renforcée dans les régions nord du pays avec plus de sécurité, mais pas au détriment des autres régions du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia et Timothée Donangmaï à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.